Il est 18h à Niamey, 18h sur le studio Kalangou et partout au Niger. C'est l'heure de votre journal en français, les titres. Libération ce matin de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de Charles B. Goudé par la Cour pénale internationale CPI. Réaction du citoyen ivoirien vivant au Niger, tout de suite dans ce journal. La crue exceptionnelle du fleuve Niger cette année continue de causer des dégâts considérables. Des rizières des quartiers Gamkalé et Saga du 4e arrondissement communal de Niamey sont inondées. Témoignage d'un riziculteur dans un instant. Signification culturelle de la natte Songhai tressée à base de feuilles de palme d'oum avec l'artiste Tini Bionia dans la partie magazine de ce journal. Messieurs, dames, bonsoir. Au micro, Diallo Mariama Kenda, la Cour pénale internationale CPI a ordonné ce matin la libération immédiate de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a écrit aujourd'hui Le Monde Afrique sur son site web. Laurent Gbagbo était poursuivi depuis 2011 pour crimes contre l'humanité par la CPI. Les ressortissants ivoiriens vivant à Niamey apprécient cette décision de la justice qui, selon eux, pourrait permettre aux Ivoiriens de se réconcilier.
Pour tout Ivoirien qui a vécu la situation que la Côte d'Ivoire a vécue pendant ces 15 dernières années, moi je pense que la libération de Gbagbo Laurent, tout bord confondu, est salutaire. Parce que cette libération va permettre aux Ivoiriens de se transcender. Et Gbagbo Laurent, dans le jeu politique actuel de la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, il est incontournable. Et je pense que quelles que soient les alliances, Gbagbo va peser. Je demande à mes frères ivoiriens de s'asseoir et de penser les plaies et d'oublier le passé.
On espère bien que c'est une nouvelle qui va permettre à tous les Ivoiriens de se réconcilier, de se mettre ensemble et puis de travailler pour le développement du pays. Voilà. Peut-être qu'il y aura des mouvements, mais on espère vraiment que ça ne dégénère pas. Et puis là, il vient d'être libéré. Je pense qu'il est assez conscient pour ne pas essayer directement de s'impliquer dans toutes les affaires politiques.
L'attention qu'apporte l'international aux régions est insuffisante, a déclaré le président du comité international de la Croix-Rouge CICR en fin de mission au Niger. C'était lors d'une conférence de presse animée hier dans les locaux de leur siège ici à Niamey. En effet, Peter Mouret était les 12 et 13 janvier respectivement à Diffa et Agadez pour une évaluation des interventions du CICR dans ces régions.
J'ai l'impression que comparé à ce que mes collègues me rapportent du terrain comme problème, à l'attention internationale de la région, il y a une attention insuffisante. Il me paraissait important de venir dans cette région, de regarder la réalité et aussi de mettre en relief l'importance que la communauté internationale s'engage de nouveau d'une manière plus substantielle sur les problèmes de la région. Notre priorité première reste toujours nous implanter là en tant qu'acteur humanitaire responsable et avec un mandat de protéger, donc de faire respecter les règles du droit international humanitaire et en même temps assister les populations. Moi, j'espère bien qu'on arrive à restabiliser cette région.
C'était Peter Mouret, le président du comité international de la Croix-Rouge CICR au micro de Attaher Rafika. Outiller les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes de la région d'Agadez en technique de médiation, gestion des conflits et lutte contre l'extrémisme violent, l'objectif d'une session de formation ouverte hier. Elle est organisée par le comité régional de paix avec l'appui de l'Union européenne. Boutali Chiwara Chiwararen, secrétaire permanent du comité régional de paix d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
L'objectif, c'est donner un bagage à tous ces gens qui sont censés régler des conflits communautaires, donc avec les dialogues. C'est pour donner vraiment du bagage aux chefs traditionnels, aux leaders, aux jeunes, pour un peu les sensibiliser et leur apprendre la technique de médiation en cas de conflit. Parce qu'on a beaucoup de problèmes communautaire dans la région. Et les problèmes communautaires chez nous, dans nos traditions, se règlent en communauté. Donc c'est pour ça que maintenant, avec ProMédiation qui nous aide, qui nous finance, c'est pour les amener à gérer eux-mêmes leurs problèmes avant que les problèmes n'aillent plus loin pour aller voir les autorités, ou bien la justice, ou bien le gouverneur, ou bien le FDS.
C'était Boutali Chiwaren, secrétaire permanent du comité régional de paix d'Agadez. Certains gardiens d'école primaire de la ville de Tawa accusent plusieurs années d'arriérés de salaire, une situation devenue intenable pour ces derniers qui appellent l'État à revoir leur situation car les mairies n'arrivent plus à les payer. Ce sont les comités de gestion de ces écoles qui cotisent chaque mois pour leur faire des salaires. Idrissa Adamou, notre correspondant à Tawa.
Issifou Bagirbi et Suleiman Maman sont des gardiens d'école dans la ville de Tawa. Ils se plaignent du non-paiement de leur salaire. Selon eux, cet état de fait les a plongés dans une situation difficile.
Cela fait 28 ans que j'officie en tant que gardien d'école. L'État n'a même pas connaissance de mon existence et je suis en train de souffrir. Ce sont seulement les parents d'élèves qui mettent de temps en temps 20 000 francs par mois. Et vous savez qu'avec 20 000 francs, c'est dérisoire pour un chef de famille. D'ailleurs, maintenant, je n'ai même pas de femme parce que je ne peux pas la nourrir. Un proverbe Hausa disait qu'il vaut mieux être associé que d'être à l'écart. Sinon, pour ce qui est de la prise en charge de nos besoins, ce n'est pas du tout le cas. Au vu du travail que nous faisons dans les écoles, si l'État ne nous paie pas, au moins qu'il reconnaisse notre existence.
Maman Bello, président de l'association des parents d'élèves et président du COGES dans la région de Tawa, reconnaît la situation dans laquelle se trouvent les gardiens d'école.
J'ai connaissance de ces difficultés que vivent les gardiens d'école. Mais vous savez, le COGES n'a pas un fonds spécifique pour cela. Nous utilisons seulement les cotisations faites par les parents d'élèves pour payer ces gardiens à raison de 20 000 francs par mois, ce qui s'élève à 240 000 francs par an et par gardien.
Cela fait quelques années que l'État ne s'occupe plus de la charge des gardiens d'école. Maman Bello souhaite que les communes prennent la relève afin de solutionner le problème.
Le 19 décembre 2018, le ministère de l'enseignement secondaire a fermé 31 établissements secondaires privés sur l'ensemble du territoire national pour non-conformité avec la loi. Les parents d'élèves d'Agadez s'inquiètent pour la poursuite de l'année scolaire en cours de leurs enfants. Je vous propose de les écouter au micro d'Anissi Karim.
Tout d'un coup, on fait comprendre que les écoles doivent être fermées. Nous aurions souhaité que toutes ces dispositions soient prises bien avant la rentrée pour mettre vraiment les parents et les enfants dans les prédispositions psychologiques en vue vraiment d'aborder la rentrée du 2018-2019. Déjà un trimestre à ce moment précis, nous nous demandons où est-ce que nous allons amener les enfants, sachant bien que l'éducation, c'est un droit pour tous les enfants et c'est sincèrement une inquiétude tout à fait fondée, tout à fait légitime que nous émettons et que nous demandions différents partenaires, que sont l'État et les promoteurs des privés, vraiment d'accorder les violons pour trouver une solution urgente.
Ce qui inquiète, c'est l'avenir de ces enfants-là. L'instruction, c'est leur droit. L'État se trouve dans l'obligation de prendre ses enfants en charge. C'est pourquoi, comme c'est en pleine année scolaire, l'État doit les déverser dans le public pour qu'ils puissent suivre leur cursus normal. Sinon, ces enfants-là, leur avenir est faussé.
Des dégâts considérables et des jardins inondés au quartier Gamkalé et Saga du 4e arrondissement communal de Niamey, c'est la conséquence de la crue du fleuve Niger dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans ces deux quartiers riverains du fleuve. Adamou Amidou, un riziculteur trouvé sur place ce matin, estime les pertes à plusieurs millions de francs CFA. Il est au micro de Moutari Mahamadou.
De Saga à l'abattoir, tout ce qu'on a comme production est parti dans l'eau. L'estimation de cette affaire, c'est des millions de francs. Pour vous dire que c'est le revenu annuel de beaucoup de paysans. Et puis les jardins, là, c'est pas Gamkalé seulement. Hein. Certains viennent de Saga, Pays-Bas, de Bassora, d'un peu partout. Le lendemain de la catastrophe, il y avait les responsables de l'agriculture de la commune 4 qui sont venus constater les dégâts. Les gens de la coopérative fédérale, ils sont venus. Et il y a le gouverneur de la région de Niamey qui était là hier aussi et il a promis de l'aide pour les sinistrés.
La région d'Agadez, c'est un rappel, a connu des inondations au cours de la dernière saison des pluies, occasionnant des dégâts dans les jardins submergés, des puits ensevelis et des motopompes emportées. Malgré ces inondations, les maraîchers de la région d'Agadez continuent leurs activités. Cependant, leurs productions maraîchères sont réduites, comme l'explique Kahamadi Yahya, le président des maraîchers d'Agadez, au micro de Gongo Maman Dantani.
Nous avons eu beaucoup de difficultés dans le cadre de ces inondations, puis ensevelis. Beaucoup de jardins ont été hors d'usage, mais quand même, ils se sont donnés pour reconstituer ces jardins-là, pour creuser les puits et pour continuer l'activité. Mais quand même, les produits sont là. Les autorités, les bailleurs de fonds, tout le monde en tout cas a mis sa main dans la pâte pour pouvoir aider ces jeunes pour retrouver leurs activités. À la date d'aujourd'hui, effectivement, nous avons acquis un retard. C'est à cause de ces inondations, parce que beaucoup de jardins n'ont pas pu mettre la pomme de terre à temps voulu cette année à la date du 12. Et il y a encore des productions qui n'ont pas été récoltées.
Vacciner plus de 7 millions de têtes de bétail composées de bovins, petits ruminants et camélins, c'est l'objectif visé cette année par l'État nigérien, et ce à travers la campagne systématique de vaccination contre les maladies épizootiques des animaux qui a débuté à Maradi depuis le 15 décembre 2018. Selon Dr Amadou Soumaïla, directeur régional de l'élevage de Maradi, cette campagne rentre dans le cadre de la prévention de la santé du cheptel par ricochet, celle des humains. Il est au micro de Mohamed Maman.
Chaque année, l'État organise la campagne annuelle systématique de vaccination des bovins, petits ruminants et camélins contre principalement la péripneumonie contagieuse des bovidés, la peste des petits ruminants et la pasteurose caméline. Tout rentre dans le cadre de la sécurisation sanitaire du cheptel et l'amélioration du taux de couverture vaccinale qui est un indicateur en matière de performance en santé animale. Un objectif a été assigné à la campagne, c'est d'atteindre pour cette année spécifiquement pour la prophylaxie pour les bovins. On compte vacciner les 80% sur environ 2 700 000 têtes de bovins. Sur environ 3 300 000 têtes de petits ruminants, les 80% et les camélins, idem.
Au Niger, la partie magazine de cette édition à présent. Au Niger, dans la commune, dans la coutume Songaï, dans le sud-ouest du pays, la natte tressée à base de feuilles de palmier d'Oum a une signification culturelle. Selon l'artiste Tini Biounia, la natte est utilisée d'une part pour communiquer entre la fille et son prétendant lors de sa première visite au foyer de la jeune fille et à décorer la case de la jeune fille d'autre part.
Au Niger, la natte Songa est tressée à base de feuilles de palmier d'Oum. Elle est utilisée pour communiquer entre un prétendant et la jeune fille ou décorer la case du jeune marié, entre autres. Maimouna Haruna, dit Tini Biounia, nous en dit plus.
Autrefois, dès que la fille atteint l'âge de 8 ans, sa mère doit songer à tisser les nattes diversement colorées, notamment une toute blanche et une autre natte avec des bandes rouges et noires. Ce sont ces nattes que la mère de la fille étale au prétendant de sa fille qui lui rend visite. Quand on étale la natte blanche pour recevoir le prétendant, cela signifie que la famille de la jeune fille lui souhaite la bienvenue. Dans le cas contraire, quand c'est la natte de couleur noire et blanche, l'ami du prétendant comprend déjà ce que cela signifie par ce geste de leur refuser l'accès à la maison pour une prochaine visite. Cette natte colorée est appelée en zerma Nichebio Nichekwara, qui signifie « ne reviens pas ».
Quelle importance revêt cette natte sorai? Comment est-elle tissée?
Il y a les nattes appelées Kurins Kantarei. Autrement dit, le mari ne doit pas dormir hors du foyer conjugal. Il y a également les nattes appelées Koskos Sunizo. Avant, ce sont ces nattes que nous utilisons pour décorer la case de la mariée. La natte dénommée Kurins Kantarei est étalée au pied du lit. Elle sert de pose-pied sur lequel le mari marche avant d'accéder à son lit conjugal. Dans un premier temps, nous coupons la matière première, nous sélectionnons les parties destinées à la confection de la natte et à la confection des objets destinés aux activités ménagères. Pour donner la couleur rouge ou noire, nous avons les plantes traditionnelles que nous utilisons le plus souvent. Nous ne connaissons pas les colorants modernes.
Quel appel lancez-vous à l'endroit de la jeune génération afin de les amener à mieux cerner nos traditions et à en faire usage?
Les temps ont changé. Les jeunes préfèrent tout ce qui est moderne, alors qu'avant, tout ce que la famille du jeune marié apporte comme d'autres peut suffire pour organiser un mariage.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des tisseuses de nattes dans les villages?
Actuellement, il y a des personnes qui ne vivent que de cette activité. Je lance un appel aux jeunes afin qu'ils s'intéressent à cette activité traditionnelle parce que les articles importés ne font pas notre fierté. Ils doivent s'inspirer par exemple des peuls qui ont toujours leur habillement et leur ustensile de cuisine d'antan.
C'était l'artiste Maimou Haruna, dite Tini Bionia, interviewée par Gungu Maman Dantani. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le forum de Studio Kalangou.